Curieux, il est gris, il est vert, vert amande, un peu comme une feuille d'olivier. Il a la forme d'une grosse mandarine. Oh, ça n'est pas vraiment un objet, c'est quelque chose d'un peu mou. Sur le haut, vous avez comme l'impression de voir une étoile. Vous savez, ces étoiles qui sont partagées avec, dans chaque petit triangle, un point qui pique un peu, quelque chose d'assez curieux. Et puis, les bords sont arrondis, comme une sorte de grande fleur. Vous avez l'impression d'un camembert un peu trop ferme, comme cela. Et dessous, il reste un peu de sable, un sable jaune. Et on vous montre, en le tendant, comment planter votre ongle sur la partie triangulaire, la première, que vous enlevez doucement, comme on pèlerait une mandarine. Et vous enlevez l'écorce. Et à l'intérieur, vous découvrez une chair d'un blanc jaunâtre. Et immédiatement, vous remarquez qu'il y a de minuscules veines oranges, comme si l'intérieur était habité par une circulation sanguine. Et la personne vous fait le geste de porter à sa bouche un morceau de cette éponge étrange. Vous la mâchez, elle est très amère. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, lorsque vous avez dégusté la moitié de votre cactus hallucinogène, les couleurs commencent à apparaître. D'abord du rouge, du jaune intense, et tout à coup, une lumière. Des choses absolument violentes qui vont virer très vite au bleu. Un bleu absolu. Ce bleu qu'on rêve, un bleu qui a quelque chose de plus profond que le ciel, et qui en même temps commence à s'ourler. Et des formes commencent elles-mêmes à se former dans votre cerveau. Vous venez d'apercevoir la plus grande divinité des Indiens Huichol, le cerf bleu, le maître du monde. Il y a peu de peuples qui sont comme les Huichol. Il y a peu de peuples qui se consacrent en fait totalement aux pratiques religieuses et qui en même temps parcourent des distances aussi incroyables. Quand je parle de distances impressionnantes, eh bien c'est uniquement à des fins mystiques, parce que si je parle de ce petit peuple qui est perdu dans la Sierra del Nayar, dans la Sierra Madre occidentale au Mexique, ils sont à peu près 20 000. Il y a quelque chose de très profond lorsqu'on aborde pour la première fois un Indien Huichol. On ressent cette religiosité d'abord, et puis même s'il y a eu la conquête, même s'il y a eu l'évangélisation de cette Sierra du Nayarit, eh bien on remarque que l'organisation sociale, tout ce côté religieux qu'ont eu les Indiens Huichol, ils ont réussi à conserver ce caractère qu'on doit appeler absolument préhispanique. Et les Huichol, on les appelle aussi Viraca ou Virica. Ce sont des Indiens du Mexique qui sont sans doute les plus fidèles, à mon avis, à la tradition de leurs ancêtres. Et il faut voir l'endroit. Comment vous décrire la scène ? Vous pourriez arriver avec une avionnette. Vous auriez décollé de terre tropicale et vous seriez monté dans les... Or, vous auriez suivi carrément ces courants thermiques, vous savez, et tout à coup, vous arrivez à peu près à 2000 mètres d'altitude et vous voyez vos premiers grands canyons. Tout paraît un peu gris, jaune, rocailleux, avec des pins et des arbres un peu partout. C'est l'impression de découvrir ce qu'on pourrait voir de plus grandiose aux États-Unis, mais avec de la verdure. Et là, au bout d'un instant, vous planez, vous découvrez quelques petites huttes à l'horizon, vous atterrissez sur une piste de sable jaune et vous êtes vraiment chez ces Huichol. Ces Huichol, eh bien, non seulement c'est l'endroit le plus sauvage, le plus inaccessible du Mexique, mais ce qui m'a touché, c'est qu'ils ont des divinités curieuses. Il y a le feu, il y a le soleil, il y a le vent, il y a des déesses de la terre. Ils savent aussi voir les dieux qui correspondent à l'eau, à la végétation, et ils savent que tous ces dieux sont là pour vraiment régler leur monde, une sorte de destinée absolue. Et alors, le maïs, ce simple maïs, va germer uniquement si ces divinités sont là, parce qu'autrement la terre serait stérile, un peu comme vous l'avez vu tout à l'heure d'avion. Et leur tradition, elle est basée naturellement sur la magie, mais je dirais même des secrets magiques. Et il n'y a que les dieux qui puissent accomplir vraiment cet étrange circuit, cette harmonie des saisons. Alors, il y a une obligation lorsqu'on s'adresse à ces divinités. Là, elles sont un peu élémentaires. J'ai dit la terre, l'eau, le feu. Et ce sont des dieux qui demandent sans arrêt des fêtes. Il faut offrir quelque chose, il faut faire des sacrifices, il faut faire des pèlerinages, il faut également jouer comme par échange. Je te donne, tu me donnes. Et pour ces gens qui ont ces coutumes ancestrales, eh bien, ils doivent se plier à des obligations. Il y a des prêtres qui entretiennent la tradition, bien sûr, mais chaque année, ils vont faire de longues marches, des marches qui sont absolument pénibles. Certains prennent déjà aujourd'hui quelques bus pour gagner un peu de temps, mais c'est un voyage rituel qui est extrêmement dur, un pèlerinage annuel qui va jusqu'au désert. Oh, ça vaudrait la peine de prendre une carte, hein. Vous avez la zone Huichol qui se trouve à gauche de Guadalajara, en dessous de Tepic, là, pas très loin du Pacifique, où il y a quand même quelques centaines de kilomètres. Mais là, vous allez parcourir tout l'intérieur du pays jusqu'à San Luis Potosi, sur la droite, du côté de l'ouest, et vous allez cueillir là-bas ce peyote. Le peyote, c'est cette plante, ce cactus, cette plante hallucinogène que j'évoquais tout à l'heure, et c'est vraiment ce qui tient le plus de place dans la vie de ces Huichol. C'est un petit cactus, il est sans épines véritables, et eux lui ont donné un nom qui est très beau. Ils l'appellent Ricuri. Et ça pousse à l'état sauvage dans cette région du nord du Mexique. Et il y a aussi certains déserts comme ça aux alentours de Rio Grande. Et finalement, vous êtes pratiquement entre le Mexique et les États-Unis. C'est là que cette plante magique, une plante qui existe depuis toujours, bien sûr que si on reprend l'histoire précolombienne, ce culte a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Et les seuls qui savent exactement ce qu'est ce cactus et comment le faire fonctionner comme un véhicule, eh bien, ce sont ces Viraricas, c'est-à-dire ces Indiens Huichol. Alors, bien sûr qu'il y a eu des missionnaires, il y a eu des gens qui sont venus depuis l'Espagne et qui ont décidé de fonder ce qu'on appelait à l'époque le royaume du Christ. Et ces gens-là, ils vont se trouver face à des cérémonies étranges, à tous ces rituels. Et naturellement, la première réaction, c'est que tous ces Indiens sont des impies, ils croient à des choses absolument diaboliques. Et les Espagnols vont détruire d'abord les temples, ils vont détruire les idoles, ils vont condamner tout cela. Et mine de rien, ces plantes sacrées qui provoquaient ces états, vous vous rappelez des couleurs de ces hallucinations, cette ivresse, ben, obligatoirement, il y aura une sorte d'accusation formelle de la part de l'Église. Et c'est d'ailleurs ces propriétés qui ont toujours été vénérées dans l'ancien Mexique qui vont donner ce caractère un peu curieux. Il y a quelque chose de surnaturel. Il y a une origine qui est perdue dans il y a un côté merveilleux, il y a un côté mystérieux lorsqu'on parle ou qu'on évoque le peyotl avec un Indien Huichol. Alors on le consommait dans les temples, bien sûr, pendant toutes les cérémonies religieuses, et ça provoquait cette extase, une sorte d'extase mystique, et les prêtres le prenaient simplement pour obtenir, pour avoir, pour acquérir le pouvoir de divination, et surtout avoir en même temps à l'intérieur d'eux-mêmes cette espèce de toute puissance des dieux. Ils devenaient eux-mêmes des dieux. Alors, ces drogues sacrées, c'était un culte, bien sûr, il y avait une ferveur extraordinaire, et je dirais que il y a eu d'autres choses qui ont été utilisées. Là, je parle du cactus hallucinogène, mais il y a eu un champignon sacré qui a été très utilisé aussi. Et le peyote, on le retrouve un peu partout. C'est peut-être ce qui a connu la plus grande diffusion dans toute la partie centrale et tout le nord du Mexique. Et les Espagnols, et surtout les moines, les pères espagnols vont remarquer que ces drogues étaient tout à fait analogues. Tout à l'heure, quand je prenais le petit morceau et je le plaçais dans ma bouche, j'avais l'impression de faire une véritable, de participer à une véritable communion. Et c'est ce que les premiers chrétiens qui sont arrivés ont ressenti. Donc ils vont interdire sévèrement cet usage. Uniquement, ça se confond avec une véritable communication avec le Dieu, comme notre communion chrétienne. Alors, on pourrait savoir aussi, on pourrait s'intéresser de savoir comment les Huichols sont arrivés à connaître cette drogue. Ben, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a déjà plusieurs millénaires qu'ils l'utilisent. Et on sait que toutes les tribus barbares du Nord, ce qu'on appelait les Chichimèques, eh bien, ils avaient déjà l'habitude de le prendre. On en parle à l'époque aztèque, mais on est persuadé que toutes les grandes civilisations ont utilisé les drogues hallucinogènes. Et en fait, Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette communion avec le divin, c'est vraiment une démarche qui est commune à tous les peuples qu'on peut rencontrer sur place, à pratiquement toutes les civilisations. Et c'est l'élément le plus important, je le disais, de cette tribu Huichol, parce qu'ils identifient le cactus et ses effets, comment dire, ils y voient à la fois le maïs et puis ce cerf. Ce cerf qui est en fait, ben vous comprenez que le maïs, c'est la farine, c'est la possibilité de boire quelque chose d'un peu épais, c'est la tortilla, c'est le pain, c'est tout ce qui vous nourrit. Et puis le cerf, quand vous êtes chasseur, eh bien c'est aussi ce qui vous nourrit. Donc en fait, les deux choses les plus nourricières sont associées à cette nourriture sacrée, à cette communion. Alors, je dirais que le maïs, bon, c'est l'agriculture, mais la chasse ne s'est jamais oubliée chez ces Indiens des hauts plateaux. Et ils doivent semer, bien sûr, un peu de maïs pour pouvoir vivre. Mais en même temps, quand ils vont dans les champs, ça je l'ai remarqué, c'est très curieux, ils partent avec un petit sachet. Ce sont les Indiens qui sont harnachés de façon extraordinaire. Ils ont des costumes colorés, brodés, avec des perles aux poignets, aux chevilles. Ils ont des chapeaux. Qui sont tout perlés et tout décorés sur la bordure de ces mêmes perles de couleur. Par-dessus, ils vont mettre des plumes d'aigle, des plumes d'oiseaux. S'ils ont été assez loin, ils vont ramener quelques plumes de perroquet. Et finalement, on les voit par exemple dans les champs au moment où ils plantent les premiers grains de maïs. Et ils sortent d'un deuxième petit sachet de la poudre de peyote. Et ils mélangent tout cela avec la terre pour qu'elle devienne nourricière, pour qu'elle sache que vraiment, elle doit offrir le meilleur aux hommes. Et puis il y a encore un autre petit sachet qu'on va ouvrir et on va semer en même temps de la poudre de corne de cerf. Vous voyez un petit peu, là on vient sans le vouloir de refaire toute l'alimentation de ces gens-là et on offre tout cela à la terre elle-même. Un pouvoir qui devient fécondant, il ne reste qu'à lever les yeux. Regardez, les rayons du soleil viennent d'apparaître, tout est en place. Un peu d'eau, le soleil, le maïs, le cerf court là-bas, entre les pins.
Le feu brûle toujours à l'intérieur du temple. La fumée monte à travers le toit de chaume. C'est une hutte énorme, en forme, une forme ovale. Il y a des dizaines d'Indiens qui sont assis avec leurs costumes. Ils ont déposé leurs chapeaux. Ils reprennent tous un nouveau cactus dans une petite bourse bien brodée, bien décorée. Et puis, vous prenez votre deuxième peyote. Vous le pelez comme le premier. La chair est toujours aussi jaune, mais sa couleur a changé. Les veines sont devenues mouvantes. Vous laissez l'aliment pénétrer dans votre corps. Et le vieux Manuel vous dit, tu vois maintenant, c'est doux, ça n'est plus amer. Et tout à l'heure, quand vous en aurez trop pris, juste assez, juste ce qu'il faut, en tant que bon ethnographe, vous voulez étudier la chose, eh bien, vous allez sentir l'amertume revenir. Le peyote, c'est vraiment l'aliment du corps, mais c'est aussi l'aliment de l'âme. Les Indiens vous le disent, ça aide le corps à supporter les longues marches, la faim, les travaux. Ces travaux dans les champs qui sont si durs, cette chasse aussi, et puis pendant l'ivresse, eh bien ça permet à votre âme de pénétrer vraiment dans la sphère du sacré, d'être vraiment dans ce monde magique et coloré. C'est la plante du dieu du feu, ce feu qui vous prend tout entier comme ça, qui vous éclaire de l'intérieur. C'est le premier des grands chamans, vous savez, ces grands guérisseurs indiens, le Rikuri. Quand Manuel vous dit Rikuri et qu'il vous en redonne à nouveau, c'est le moyen vraiment pour entrer en communication avec ces dieux. Or, il faut des années pour voir les vraies couleurs, il faut des années pour voir de vraies formes, il faut regarder des centaines de dessins, de perles alignées les unes à côté des autres, cette laine collée sur de la cire d'abeille, qui font de grands tableaux colorés, que les Indiens préparent sans cesse. Chaque fois qu'ils sortent d'une vision, ils redessinent quelque chose d'autre. Et puis, il y a ces ourlages de couleurs. Le centre est peut-être jaune, et tout à coup, il y a une bordure verte, et puis une autre bleue, une autre rouge, des couleurs violentes. Et puis, il y a ce pèlerinage. On y pense sans cesse, parce que lorsqu'il y a cette communion, cette immense communion entre tous ces hommes dans le temple, sur la grande place du village, où les femmes, les enfants, tout le monde va s'alimenter de ce peyote, on repense à cette marche avec les prêtres, ces prêtres qui vont accomplir cela chaque année. Et c'est certainement, à mon avis, la manifestation religieuse la plus incroyable que je connaisse au Mexique. Alors, il y a des récits mythologiques étranges. On m'a raconté que le vieux dieu du feu, Tatewari avait d'abord organisé cette toute première expédition là-bas, à 450 km vers le pays du peyote. Vous traversez des montagnes, vous redescendez dans des plaines, il y a des déserts, il y a encore des forêts, il y a des marécages, et puis ensuite vous êtes dans le vrai désert une fois de plus. Alors, il avait donné le commandement à un héros, je me rappelle qu'il s'appelait Maraquari, c'est celui qui avait, il y a toujours des traductions, c'est la queue de cerf. Donc on se retrouve avec les chasseurs, bien sûr, et grâce à lui, le feu va fixer exactement toutes les étapes du pèlerinage. Il va imposer, comment est-ce qu'on peut appeler ça, une sorte de confession. Il y a des rites aussi de purification. Il faut être tout à fait prêt à partir, prêt aussi à chaque étape à repartir. Alors, si vous êtes fidèle à cette volonté de ce dieu du feu, si vous êtes fidèle à ses lois, celles de Maraquari, eh bien, si vous êtes Huichol, vous allez refaire depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années, ce chemin absolument mystique du peyote, une sorte d'épreuve. C'est une épreuve initiatique, bien sûr, c'est un chemin qui est long, qui est difficile. Mettez-vous en route simplement avec une hotte sur le dos, vous êtes encore léger, vous n'avez aucun aliment particulier, vous êtes parti avec vos pique-niques, avec votre maïs qui est compressé, que vous allez dissoudre dans la première source avec un peu d'eau, et vous allez avancer comme ça sur ces 450 km. Alors, bien sûr qu'il faut choisir une bonne saison, c'est en principe en octobre qu'il faut le faire. Vous avez 40 jours de marche devant vous. Et puis, vous aurez le retour, ça fait 20 et 20, ce sont des chiffres que les Indiens aiment bien, on a presque l'impression qu'ils l'ont calculé pour cela. 20 jours, c'est le chiffre sacré, et on arrive sur cette terre étrange. C'est une marche, disons en tout, ça fait 800 ou 900 km, si vous reprenez tous les sentiers de la Sierra Madre, si vous arrivez jusqu'aux régions désolées de Zacatecas, si vous allez jusqu'au désert de San Luis Potosi. Alors, l'importance de ce pèlerinage, c'est qu'avant, il y a des choses qui m'ont impressionné. Ces gens-là font des jeûnes de plusieurs jours. Il y a des prières. On va essayer de d'imaginer le succès de l'expédition, parce que s'il n'y a pas de succès, il n'y aura pas de maïs, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de bien-être non plus dans cette communauté indienne. Donc ces personnages, ces 9 personnes qui vont partir, sont essentielles pour que tout le monde puisse vivre. Il y a même une femme ou des femmes parfois qui sont là simplement pour pendant les préparations, il y a un côté très chaste, donc on va les éliminer au départ, bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce côté chasteté, eh bien, elles sont éliminées du culte. Il y a une sorte d'obligation que la plante exige. Alors chaque temple, bon, on était quelques dizaines tout à l'heure, il y a les prêtres, il y a les aspirants qui vont devenir chamans. Tout le monde rêve d'être sorcier, d'être chaman ou d'être médecin, enfin médecin au sens indien. Et on attend ce dieu du feu et puis ensuite on commence la file indienne, vraiment, on se met en marche, on avance. Alors dans un silence absolu, il y a un recueillement incroyable. Alors vous avez votre hôte, des énormes hôtes sur le dos et elles contiennent simplement vos provisions que j'évoquais tout à l'heure, et puis tous les objets rituels. Alors chaque soir, en arrivant au lieu qui a été vraiment fixé par la tradition, on sait exactement où on doit se reposer, eh bien on va former un cercle avec les hôtes au centre, et puis les prêtres vont se placer là avec un feu qu'on va allumer rituellement, et on va délimiter un véritable espace sacré. On va célébrer les principaux rites du pèlerinage. Il y aura cette présence magique, là, vous le sentez au centre, il vous réchauffe, il fait nuit, il y a ce feu qui protège non seulement du froid, parce que la nuit il fait très froid, mais de tous ces esprits qu'on sent autour. Il y a ce côté un peu maléfique de la nuit. Alors avant de boire, avant de manger, vous allez vous offrir ces boulettes de pâte de maïs, quelques gouttes de chocolat, mais attention, il n'est pas sucré, hein. C'est un chocolat amer qu'on a simplement écrasé, et on le dit sous avec un peu d'eau, et avant de vous endormir, ben vous allez invoquer la protection. Et puis le matin, juste au moment du départ, vous allez demander à nouveau par les mêmes prières de que le Dieu soit là et qu'il prenne lui-même la tête de l'expédition. Vous l'éteignez doucement et il part avec vous. C'est le feu, bien sûr. Alors, il y a des sacrifices et des privations. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'on marche en principe exactement au moment où le soleil se lève jusqu'au coucher du soleil, et vous ne pouvez vous arrêter que dans les endroits qui ont été imposés par cette tradition. Alors, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se désaltérer n'importe où. Il y a vraiment des lieux précis, et puis il y a une abstinence absolue. Que ce soit sexuel, que ce soit même sur le plan moral, il y a des choses très curieuses que les Indiens pratiquent tout au long de cette marche. Il y a une rigueur absolue. Et puis, la nourriture, c'est uniquement quelques tortillas sèches que vous auriez emportées, cette pâte que j'évoquais avec quelques haricots, eux aussi transformés en pâté. Et tout ça est simplement repris depuis la maison, depuis votre endroit de départ, et vous les réchauffez comme ça chaque soir. On ne mange qu'une fois par jour. Alors, pendant les premiers jours, ben, on se prépare, il y a silence qui est absolu, il y a une sorte de méditation. On a presque l'impression que les gens pourraient fermer les yeux, il y a une sorte de confession. Le cinquième jour, on va même commencer à parler, on arrive à ce qu'on appelle, oh, c'est un très bel endroit, ça s'appelle la colline de l'étoile. Et là, c'est une petite localité de l'état de Zacatecas. Alors, le prêtre chaman qui dirige tout ça va vous confesser. C'est-à-dire qu'on passe un à un, on va parler de tous nos péchés à la façon indienne, surtout le péché d'adultère qui est le plus fort. Et puis, on fait un nœud à une corde qu'on redonne comme ça à chacun. Chaque pénitent va avoir une corde. Et cette confession, une fois qu'elle est terminée, eh bien, il faut dire qu'elle est publique. Hein. C'est assez curieux de penser qu'on parle à haute voix, on dit tout ce qu'on pense, on est debout devant le feu, et puis on répète à haute voix le nom des femmes avec lesquelles on aurait eu quelques relations, je ne sais pas, illicites, bien sûr. Et lorsque les flammes ont consumé les cordes que vous auriez jetées au milieu des braises, eh bien, on sait que tout est purifié, qu'il n'y a plus de faute. Il faut être absolument parfait à partir du cinquième jour de marche. Il en reste encore 15. Vous avez tous ces lieux sacrés, des montagnes, des collines, il y a une source, une autre source, des étangs. Et on sait que là, il y a chaque fois la résidence d'une ou de plusieurs divinités. Alors on reconnaît chaque endroit parce qu'il y a une sorte d'empreinte physique, comme si on était un Sioux et qu'on reconnaissait les lieux simplement au premier regard. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour les rituels, mais on va également chaque fois déposer les offrandes. Rappelez-vous, la hotte était pleine au départ, et petit à petit on va marquer ainsi comme un petit pousset, non seulement la trace, mais tous les lieux où l'on s'arrête. Après une dizaine de jours, on va arriver dans un endroit qui est magnifique. Il y a des étangs, il y a des sources. Et là, on va se retrouver avec des... Ils appellent ça des êtres surnaturels. Ils sont sûrs qu'il y a quelque chose qui manifeste une sorte de présence. Alors là, il y a des... C'est très beau aussi, parce que je vous disais que les Indiens étaient totalement tarnachés, mais il y a des ablutions. Le prêtre chaman va vous soigner. Il soigne chacun des pèlerins pour le libérer de toutes ses impuretés du voyage. Il vous prépare à l'arrivée. l'arrivée dans cette terre absolue des cactus. Et le pays du peyote, je dirais que c'est une steppe assez monotone. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a absolument pas d'ombre. Le soleil, lorsqu'il monte, tape terriblement. C'est le royaume de tout ce que vous pouvez rêver avec des épines. Et il faut une certaine obstination parce qu'on va réussir à prendre vraiment possession de ce désert. Et puis, on va essayer d'oublier ce côté désolé du paysage. Il faut marcher, il faut continuer. C'est une contrée qui est totalement aride. Et devant les yeux de celui qui est devant, bien sûr, le chaman, il voit ça tout à coup. Il vous le décrit parce que lui le voit différemment. Et tout à coup, il se retourne et il vous dit, ça y est, je vois le jardin des fleurs. Je vois apparaître vraiment une étendue avec des champs de maïs. Il imagine des pâturages absolument riches où il y a des cerfs avec d'immenses cornes. Et c'est de la vraie poésie. On sent qu'on est rentré dans le royaume un peu mystique de ce peyote où il y a non seulement le maïs, non seulement le cerf, mais qu'il y a tout à coup ces visions que seuls les initiés peuvent avoir lorsqu'ils arrivent dans cette terre où pousse cette plante divine. Alors on gravit la montagne sacrée, vous êtes à Léonard, vous déposez les offrandes dans un cratère, une sorte, ça ressemble à un volcan, c'est assez étrange. On dit que il y a bien longtemps, au début des temps, l'enfant soleil s'était sacrifié dans un bûcher, une sorte de bûcher purificatoire pour donner sa lumière, sa force, son énergie au monde. Et les Huichols, alors là je les vois descendre en fil, il y a un étroit sentier, ils serpentent au flanc de toutes ces montagnes désolées, ils arrivent ensuite dans la plaine, cette plaine de Viricota, ce lieu où on va maintenant récolter le peyotl, les Indiens allument le feu, on passe la nuit, on prie, on célèbre les rites. Et le soleil est apparu maintenant le matin au-dessus des montagnes. Il y a des collines qui entourent Viricota. Vous êtes vraiment là, entre Virarica, entre Huichol, après avoir invoqué l'aide de toutes ces puissances. Ils les voient dans leur tête. Il y a un côté toujours surnaturel. On commence à chercher. On cherche doucement. Et le premier cactus, lorsqu'on le voit, on l'imagine immédiatement sous la forme d'un immense cerf. Il apparaît au chef, au chaman de l'expédition, et lui sort de son carquois une flèche, il la met sur la corde de son arc, il regarde le cactus, il tend son arc, il est vraiment là au lieu de l'apparition. On avance en silence, on est arrivé au lieu sacré, celui qui a été signalé par leur guide, on forme un demi-cercle, le cerf peyotl alors s'évanouit, il laisse simplement sur le sol son empreinte, un précieux ricouri. Ça n'est plus un cerf, c'est un cactus. Vous invoquez les dieux, les cinq régions du monde et la divinité qui habite cette plante. Le prêtre chaman déterre le cactus. Il le partage. Il distribue les morceaux aux pèlerins. Vous qui êtes venus chercher la vie, voilà la vie. C'est là, votre vie.
la plus humble, la plus magique des plantes du désert. Regardez-la, elle se confond avec le sol rocailleux. On ne la voit pas dans cette végétation un peu hostile, il y a tous ces épineux. Oh, elle est invisible pour moi, parce qu'on est un peu profane. Mais les Indiens invoquent la protection divine. Et puis ils sont partis, là, ils coupent le peyote. Ils lui adressent ensuite des suppliques. Oh, c'est superbe, il y a une sorte de ferveur. Ils parlent, vraiment, ils se défoulent à chaque fois qu'ils en trouvent un. Et puis ils communiquent avec la plante. Ils ne peuvent pas le faire sans avoir atteint cet état de pureté d'abord, cette préparation obligatoire. Et puis, ils savent très bien qu'ils peuvent s'exposer à la colère des dieux, et puis qu'on pourrait les punir. Enfin, ces dieux pourraient leur envoyer la maladie, la famine. N'oubliez pas, c'est un cactus qui a quelque chose de fort. Il y a de la mescaline à l'intérieur, il y a la folie, il y a la mort peut-être aussi. Et puis, quand vous êtes dispersés comme ça, quand vous voyez ces hommes avec leurs plumes sur la tête qui s'avancent comme ça dans cette vaste étendue, ils poursuivent, bon je sais pas, ça dure des heures, c'est une véritable quête. Et puis la nuit, écoutez le silence, il y a cette solitude absolue, vraiment glacée, en plein désert. Tous ces pèlerins se retrouvent une fois de plus autour du feu, là il y a leur campement, et ils célèbrent le rite. Ce rite incroyable qui est ancien, qui est mystérieux, cette communion avec le Rikuri. Et alors, vous avez les visions. Ces visions absolument déterminantes. On va revoir complètement la vie sociale. On va imaginer la vie religieuse du village. Là, sur les terres du Rikuri. Et au cœur de la nuit, vous avez le héros culturel qui arrive. Koyumari. Il apparaît juste aux pèlerins sous la forme d'un cerf. Attention, il est bleu. Un grand cerf bleu. Il va offrir des chants. Oui, un cerf qui parle et qui vous enseigne des chants magiques, qui dit au chaman des choses qu'il connaît peut-être déjà, qu'il a déjà entendues l'année d'avant. Puis il y a les élus, tous ceux qui connaissent pour la première fois ce mystère de la création, qui commencent à comprendre l'origine un peu divine comme ça de cette tradition. Alors ils comprennent, tous ces huichols, on sent qu'il y a quelque chose de curieux. Ils saisissent ce que veut dire cette identité qu'ils ont maintenant avec le peyote, avec le cerf, avec le maïs. Et puis ce côté miracle, il y a une sorte de miracle dans la participation du Rikuri à la nature, à la nature du cerf bien sûr. Ils comprennent aussi pourquoi la brume, cette brume surgit, elle sort du peyote, elle retombe en pluie féconde. Et puis ils peuvent voir les dieux sur les formes. Oh, ils ont vu un tourbillon qui passe par la plaine de Viricota. Il y a des guirlandes de Rikuri, tous les Rikuri sont en fleurs. Il y a l'univers qui s'anime, des montagnes, des collines, des sources sacrées. Ils entendent des chœurs, des voix divines comme ça. Les paroles, les chants. Personne n'avait jusque-là entendu ces chants-là, bien sûr. Il y a quelque chose d'obscur pour les Indiens, ils sont totalement drogués. Mais il suffit de les répéter pour que le miracle commence. Attirer la pluie, assurer la fécondité de la terre. Viricota, Viricota. Où les roses naissent, où les roses s'épanouissent, des guirlandes de fleurs, des tourbillons de vent, Viricota, là juste au pied de Léona, respirer les fleurs, le souffle divin de la rosée, du cœur de Rikuri, monte la brume, il y a le cerf bleu qui monte, la pluie tombe, le cerf bleu descend, le maïs germe, la plante et la fleur s'épanouit, la fleur chante, je suis le cerf chante, je suis la fleur. À Viricota, on entend le chant, chantent nos pères, nos mères, les montagnes, les collines chantent, elles chantent les fleurs. Là seulement, à Viricota, on entend le chant de la vie, la voix de la vie, seulement là, à Viricota, seulement là, on l'entend. 3 jours, vous allez passer 3 jours à remplir les hottes. Les provisions, ben maintenant il n'y en a plus. Mais par contre, vous en avez de nouvelles pour toute une année, dans votre dos. Et pendant tout le long voyage, ce long voyage de 20 jours au retour, vous allez consommer, consommer, consommer du peyote. Ça vous aidera à surmonter les fatigues, les privations, vous n'avez plus rien à manger, ça ne fait rien, vous mangez du peyote, ça vous nourrit aussi, ça vous nourrit l'âme, ça vous nourrit le corps. Et puis vous allez rentrer dans le territoire, dans votre territoire, uniquement si vous avez réussi à trouver un certain nombre de cerfs, mais des vrais cerfs, vous allez chasser, ça c'est les dieux qui le veulent. Vous allez voir apparaître en rêve, oh, c'est le prêtre chaman, les prêtres chamans de l'expédition qui vont exprimer leur volonté maintenant. Et lorsqu'on va rentrer finalement dans ce temple d'où l'on est parti, après avoir accompli jusqu'au bout cette mission divine,
On va être accueillis comme des héros. Et c'est vrai que ce moment est absolument incroyable. Il y a ceux qui sont restés. Alors tout le monde arrive, ils sont émus. Il y a des gens qui sont chaleureux. On a presque l'impression qu'ils vont pleurer. Il y a des remerciements parce que les pèlerins ont apporté à la communauté cette plante de la vie. Et avec l'assurance, une assurance absolue, d'avoir des moissons abondantes, la bénédiction de toutes les grandes puissances que les Indiens connaissent, ces puissances qui gouvernent le monde. Et puis ensuite, il y aura la fête du Ricoury. C'est une fête, alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est l'ivresse, c'est la libération absolue. C'est tout ce côté sacré qui ressort. On met fin à cette période de privation, là dont je parlais. Tous les pèlerins étaient soumis à cela. Et ça, c'est célébré en général, juste maintenant, en avril, mai, si vous vous replacez dans la saison, si vous imaginez que nous sommes au printemps, ça va durer 3 jours, 3 nuits. Et puis les pèlerins, les Huichol, vont faire un usage absolument impressionnant de peyote. Et puis à côté, vous avez encore l'alcool, ce sont des véhicules, il y a des scènes de joie, il y a des chants, il y a des danses, on va pleurer, on va évoquer pratiquement tout ce qu'on peut imaginer de païen, de surnaturel, et là on va vraiment confondre toute cette ferveur humaine avec cette atmosphère magique. Ça, ce sont des moments très forts. Oh, ça tombe à peu près sur la semaine sainte, au moment de Pâques. Et quand on voit ces Indiens qui maintenant ont revêtu leur peinture parce qu'ils ont fait le pèlerinage, ah, ils prennent une petite pierre et sur cette pierre ils posent une racine jaune et puis ils mettent un peu d'eau, on dissout tout cela, on prend une petite baguette de bois un peu comme un cure-dent et puis on se dessine avec un petit miroir une fleur. Un peyote, là sur votre joue, un peu rouge, un peu brune, vous avez ce jaune, ce très beau jaune entre safran et citron qui se dessine et qui vous refait la forme du Ricoury. Ce Ricoury qui permet de pénétrer cette essence un peu mystérieuse des choses, de comprendre l'univers qui les entoure, de voir clairement dans le passé, le présent, de connaître l'avenir. Il y a ces hallucinations, il y a tous ces rêves. Tout ça, c'est l'ingestion qui provoque, que provoque le peyote. Et tout ça va être interprété, ce sont les manifestations des forces surnaturelles. Et puis, ça va bizarrement déterminer le choix des autorités civiles et des autorités religieuses de la communauté. Le prêtre chaman qui voit tout à coup les événements mythiques et va former le noyau de toute la tradition. Et c'est vraiment le gardien absolument fidèle de tout cela. C'est incroyable de penser que ces gens-là sont entièrement dirigés par leur propre vision. Et pendant la fête, les pèlerins, leur famille, ils vont danser. C'est une danse, ça s'appelle le marakwari. Il y a toujours le prêtre chaman qui est là, qui chante les mythes à l'intérieur du temple. Vous avez le feu qui brûle sans arrêt, les flammes s'élèvent. Alors c'est beau parce que c'est vraiment une lumière particulière. Vous avez tous ces visages, ces Indiens avec ce regard qui se reflète ainsi à travers cette luminosité. On sent bien sûr que ces gens sont occupés intérieurement, qu'ils sont même pris, qu'ils sont envoûtés par la plante sacrée. Vous voyez les ombres comme ça, parce que le feu vibre dans la nuit, il y a toujours un souffle de vent, il y a toujours ces tourbillons qui arrivent, même à l'intérieur du temple, il est très aéré, il n'y a que du chaume en dessus de vous. Et puis il y a des masques, il y a des têtes de cerf, il y a toutes ces flèches avec des plumes qui ont été plantées sur l'autel. Et tout cela, ça se dessine avec des ombres un peu bizarres, il n'y a que des silhouettes. À la lueur des flammes, vous voyez aussi les yeux, ces yeux des Huichol qui sont tout à fait ivres, bien sûr. Il y a une expression, enfin, quelque chose d'assez étrange dans leur regard. Il y a quelque chose même d'inquiétant. Regardez leurs pupilles, elles sont complètement dilatées. Ils ont un regard fixe, ils ont un regard complètement perdu. Ils ont des yeux de visionnaire, il y a des yeux d'une mélancolie infinie. Et le troisième jour, l'ivresse sera générale. Les Indiens ont absorbé une quantité absolument incroyable d'alcool. C'est de l'alcool de maïs, bien sûr. Il y a le peyote. Une atmosphère qui est vibrante, il y a l'émotion surtout. Le pas, écoutez-les, les danseurs qui martèlent le sol. Ça commence à devenir trépidant, il y a un côté un peu frénétique. Il y a cet état d'ébriété, il y a la fatigue aussi. Ça fait 3 jours que ça dure, on poursuit la danse. Marakwari, marakwari, on frappe chaque fois le sol de façon vigoureuse. Il y a des nuages incroyables de poussière dans le temple. Il y en a qui doivent se tenir par les épaules pour pouvoir résister au rythme même de la danse. Les prêtres sont complètement ivres, ils sont adossés au mur, là, au fond du temple, et ils jouent du violon. Un vieux violon, un violon qu'ils ont fait eux-mêmes avec juste quelques cordes, un côté grinçant, ils répètent les chants, le frère aîné, Serbleu, celui qui a offert la possibilité d'aller voir la terre du peyote, cette terre curieuse là-bas, lointaine à 450 km, des voix, la musique, sortez un instant du temple, un ciel avec des étoiles incroyables. Vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Ce n'est pas noir, c'est d'un bleu obscur. Et vous entendez encore ces voix, cette musique, cette ivresse, la fougue comme ça des prêtres chamans. Leur chant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imiter. Ça s'élève plus haut vers les 5 régions du monde. Viracocha, Viracocha, où les roses naissent, où les roses s'épanouissent. Guirlandes de fleurs, tourbillons de vent, Viracocha. Et là-bas, dans leur demeure, il y a des dieux. Ils s'écoutent. Ils écoutent. Ils sont contents. Ils ont été comblés. Ils sont prêts à faire tomber la pluie sur le pays de Viracocha. Ils vont vous récompenser de tous ces sacrifices, de toutes ces privations de leurs pèlerins qui ont été fidèles. Pour une année encore, tombe la pluie, monte la brume du peyote, depuis là-bas, depuis la terre de Viracocha.
Nayarit, Durango, Zacatecas, un territoire immense, toute une partie du Mexique. Et puis cette tache blanche, cette Sierra del Nayar, dans ce Nayarit où vivent ces Indiens Huichol. Et puis cette avionnette qui a atterri tout à l'heure sur une piste de sable jaune. Et puis ce vieil avion, un vieux DC-3 qui arrive derrière votre avionnette, l'avion commercial. Oh, il n'y a que quelques marchandises. Les villages Huichol sont dispersés comme cela, entre falaises et plateaux. La vie paraît tranquille. Vous faites un kilomètre jusqu'au temple, vous remontez jusqu'à la grotte sacrée. À l'intérieur, il y a des sièges. Des petits sièges faits d'étranges rotins, comme ceci, en forme de volutes, qui sont tenus par une cire goudronnée. Il y a des flèches votives. Il y a, dans chaque temple, des chapelles secondaires ou éventuellement des yeux étranges avec des pierres rondes qui sont souvent percées en leur centre et puis par-dessus de la peinture, de la gravure. Ah tiens, le cerf bleu et puis tous les dieux de la nature qui sont dessinés avec ces couleurs étranges des visionnaires. Vous avez un village fait de petites huttes, de petites maisons, de rien du tout. L'Indien est assis devant sa porte. Il est en train de vider son sac de perles. Il les choisit judicieusement. Il les plante doucement dans la cire d'abeille. Oh, il a pris une simple calebasse. Il la décore, il refait ses motifs et ses dessins. Et puis, il ira peut-être la porter au temple en offrande avec quelques formes de cerf qu'il a lui-même roulé comme cela, du bout des doigts, dans la cire encore tendre que les abeilles lui ont donné. Et puis il va déposer encore quelques objets avec des petits bouts de papier, des inscriptions, des dessins étranges. Une flèche ressemble à une flèche, c'est vrai, elle a un embout et est le plus courte de la norme. Des centaines d'objets, des milliers d'objets qui sont déposés les uns sur les autres, qui sont piqués ici dans une simple masse d'argile ou posés devant l'autel. Des endroits où a brûlé le feu, l'encens, ces fumées sacrées. Et ce petit village perdu comme cela dans ces sommets, dans ces plateaux du Nayarit, vous donne une impression étrange. Vous êtes certainement dans le lieu le plus isolé du Mexique, et pourtant dans la tête du Huichol, il y a de longues distances. Si vous avez été pèlerin, vous serez allé jusque là-bas, à San Luis Potosi, 900 kilomètres de voyage, et puis si un jour vous devez baptiser un enfant, vous partez avec votre enfant sur le dos, avec votre épouse, et vous marchez exactement dans l'autre sens. Vous allez faire quelques centaines de kilomètres à travers les montagnes, et vous allez descendre dans la plaine, dans les tropiques, vous allez chercher quelque chose, vous allez marcher longtemps. Oh, vous suivez des sentes secondaires, tout à coup vous vous retrouvez sur une grande route, vous croisez des camions, vous êtes en pleine civilisation. Le Huichol marche, sa femme le suit avec son enfant sur le dos. Ils cherchent quelque chose, ils avancent toujours entre les cannes à sucre, les cocotiers, les palmes. La chaleur étouffante, il ne se reconnaît pas vraiment dans son climat frais d'altitude. Il cherche quelque chose. Il arrive tout à coup en pleine nature devant une plage, une grande plage de sable avec les rouleaux très doux de l'océan Pacifique. Et on baptise l'enfant dans la mer divine, dans cette mer qui est pour eux et la mère créatrice aussi. Ils connaissent le Pacifique. Ben tiens, quelques années auparavant, quelques mois auparavant, quelques jours auparavant, on avait déjà fait ce voyage depuis le haut village Huichol, depuis San Andrés par exemple, jusqu'au bord de la mer, parce qu'on s'est marié, qu'on se marie dans la mer, les pieds dans l'eau. Le Huichol connaît son monde. Je viens de faire 400 kilomètres d'un côté, 400 kilomètres de l'autre. Tout à coup, son territoire devient immense. Il est capable de vivre sur plus d'un millier de kilomètres de côté. Et quand vous voyez un Huichol descendre à Tepic, aller vendre ses tableaux colorés, ses perles, ses colliers, ses bracelets, à Guadalajara, pourquoi pas, dans la grande capitale de Jalisco avec plusieurs millions d'habitants. Il est sur un trottoir, il croise des milliers de voitures, il est noble, il a le front haut, il a souvent encore un reste de peinture faciale, il a son costume coloré, toujours aussi beau, toujours aussi blanc de coton et coloré de laine et de coton qui vibre. Il a cette allure princière qui me fait dire qu'un Huichol, même en plein XXe siècle, peut aller jusqu'à Mexico. Il m'est arrivé d'en voir carrément en plein aéroport. Ils marchent toujours aussi nobles avec leurs petites gibecières, avec leurs petits sacs de laine ou de coton plein de mille choses, un peu de poudre de cerf, de cornes de cerf, un peu de poudre de peyote, du peyote parce qu'il faut supporter aussi le fait de sortir de chez soi et d'aller voir l'autre monde, celui des blancs, celui des métisses. Un Huichol, lorsqu'il marche au soleil dans une grande ville comme Mexico, il nous fait comprendre que non seulement son univers est dans sa tête, mais qu'il connaît parfaitement les limites de son monde et qu'il est capable de survivre uniquement parce qu'il sait qu'il a à quelque part, là, à des centaines de kilomètres, une terre sacrée, celle de Viracocha, qui fonctionne dans sa tête. Oh, s'il a fait le pèlerinage, il est absolument sûr que tout est en lui. Il a l'habitude de comprendre que le monde qui l'entoure n'est pas fait pour lui, mais qu'il peut très bien s'y adapter. Un Huichol peut rester des semaines, des mois à l'extérieur sans aucun complexe. C'est la seule tribu du Mexique que je connaisse qui est capable de garder son costume, ses habitudes, son rituel. Je les ai vus parfois accueillis peut-être par un institut indigéniste ou même par ceux qui s'occupent s'occupent de l'artisanat au gouvernement ou qui aimeraient commercialiser leurs produits afin de les aider. On les a placés souvent dans de vieux palais, dans la partie la plus ancienne de Mexico City. Là, dans ces immenses salles, 20 ou 30 mètres de longueur sur des dizaines de large, on a l'impression de se retrouver dans un véritable hangar du 16e ou 17e siècle. Que fait le huichol? Il s'installe tout près du mur, il monte son petit campement, un peu comme les hôtes de tout à l'heure, qu'il avait placé en cercle pour former son petit territoire. Et bien carrément, au milieu de la salle, sous ces vieilles poutres coloniales, il va tout simplement prendre des bûches et allumer un feu, sans aucun complexe. Il est là, en plein cœur de notre civilisation, et sans aucun problème, il est capable de vivre comme s'il était dans sa hutte, là-bas sur les hauts plateaux. Un temple, ce temple qui vibre encore des dernières fêtes, la poussière est retombée, le feu s'est petit à petit éteint, la cendre est encore chaude, la saison va commencer, le maïs va être planté. Ce maïs qui est jaune de bonheur, blanc de bonheur, parce que tout a été fait, tout a été accompli afin qu'il puisse pousser. Rappelez-vous, cette rosée, viricota, viricota où les roses naissent, où les roses s'épanouissent, ces guirlandes de fleurs, ce tourbillon de vent, viricota, là au pied de cette montagne sacrée de Leuna, là vous pouvez respirer les fleurs, c'est là que souffle de manière divine cette rosée, ce cœur du ricuri qui monte comme la brume, ce cerf bleu qui monte, cette pluie qui monte, ce cerf bleu qui maintenant descend. Le maïs est en train de germer sous la terre. La fleur s'épanouit. Elle s'épanouit doucement. Et vous, au pays de Viricota, les fleurs poussent comme un cactus en forme d'étoile partagée. Il est gris, il est un peu vert. Vous prenez votre ongle, vous le plantez doucement dans cette masse un peu molle. Vous arrachez la partie extérieure. L'intérieur est toujours jaune. Il y a des veines de sang. Le cactus est vivant, c'est un morceau de chair vive pour votre corps, pour votre âme, pour les couleurs des dieux. ¶¶